la foule coagulée du RER qui nous ramène dans notre lointaine banlieue, ou assis confortablement dans un TGV s'échappant de la gare de Lyon, on se souvient tous de ces premières minutes de voyage où, le regard collé contre la vitre, on voit la ville se transformer de seconde en seconde. Entre la jungle de béton, de verre, d'acier du cœur de ville et le désert vert de nos campagnes industrielles, on se souvient tous de ces édifices bizarres en tôle ondulée, alignés les uns à la suite des autres pendant des kilomètres de banlieue. Ces parallélépipèdes parfaitement rectangles semblent étanches au monde extérieur, posés là au milieu de nulle part, dans des zones si pleines de véhicules et de machines en tout genre et si vides d'hommes qu'on a cru bon de les nommer zones d'activité. Pourtant, ces entrepôts, car c'est bien d'eux qu'il s'agit, bien qu'à la périphérie des villes, sont au cœur de notre monde. Par leur bouche, en effet, ces ouvertures carrées dessinées à même les parois de tôle sortent chaque jour des centaines de camions portant chacun des milliers de produits. Du frais pour les supermarchés, des habits et autres articles de mode pour les grandes galeries marchandes, des livres, des disques et des DVD pour les clients des grandes plateformes numériques. On le pressent, le rôle économique des entrepôts de la logistique est majeur. Mais qu'en est-il de leur rôle social? Quelle forme de travail l'entrepôt abrite-t-il? Quelle forme de vie hors travail porte-t-il? À l'heure où Paris se veut grand, où les villes globales absorbent toujours plus la vie des territoires étendus, quelle forme de ville dessine l'expansion de ces entrepôts? Faire l'anthropologie de la ville globale, c'est décrire la multiplicité des flux qui la traversent. Les Voix du Crépuscule ont consacré de nombreuses émissions aux flux humains qui forment les diasporas du Paris cosmopolite, et nous poursuivrons dans ce sens. Mais cette saison, nous voulons aussi investir les flux de choses, marchandises, argent, informations, qui sont à la base de notre expérience de citoyens du monde, pour le meilleur et pour le pire. C'est pourquoi cette première émission de l'année 2017 conduira nos micros aux portes de la ville des flux, afin d'y rencontrer ses entrepôts et ses hommes. Les Voix du Crépuscule, Anthropologie du Paris cosmopolite.
Commencez la mission, ok?
Ok.
Donnez votre numéro de commande.
0501-2017.
Deux invités, un chroniqueur, un réalisateur, un animateur. Aux portes de la ville des flux, des entrepôts et des hommes. Dites ok.
Ok.
Attention, la commande doit impérativement être expédiée sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9 FM entre 20 et 21 heures. Allez en studio direct cabine Réa.
Arrivé.
Article réel barbu 1m90 surmené, prenez 1.
Quantité 1.
Allez en fauteuil chroniqueur 1.
Arrivé.
Article chronie info rocker militant, prenez 1.
Quantité 1.
Allez en fauteuil invité 1.
Arrivé.
Article David Gaborio post-doctorant laboratoire ville mobilité transport prenez 1.
Quantité 1.
Allez en fauteuil invité 2.
Arrivé.
Article Lucas Tranchant doctorant centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux prenez 1.
Quantité 1.
Commande terminée. Émission One Air. Faites le show et surtout dites OK.
OK.
Les Voix du Crépuscule.
Les Voix du Crépuscule.
Les Voix du Crépuscule.
Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Voilà, c'est pas une introduction comme les autres qu'on vous propose ce soir, mais David Gaborio et Lucas Tranchant qui êtes nos invités, vous pouvez peut-être nous dire si ça correspond à peu près à ce que un préparateur de commandes reçoit dans ses oreilles quand il travaille dans ses entrepôts que vous étudiez.
Ça correspond à peu près, oui. C'est une voix numérique, ce qu'on appelle du voice picking ou de la commande vocale. C'est-à-dire c'est une machine qui commande l'ouvrier, qui lui ordonne de faire telle ou telle tâche, les unes après les autres. Et à chaque fois, on répond par des phrases, des mots-clés plutôt, pas des phrases très courtes, ce que tu as fait en fait.
C'est-à-dire qu'il y a une synthèse vocale et une commande vocale. C'est-à-dire l'ouvrier parle à la machine, la machine parle à l'ouvrier et l'ouvrier parle à la machine.
C'est ça, oui, il lui répond. Alors est-ce qu'il lui parle vraiment? C'est pas évident. Est-ce que la machine lui parle? En fait, elle lui envoie presque des signaux sonores, c'est toujours les mêmes, ils sont très peu nombreux. Et à chaque fois, l'ouvrier répond également par des mots-clés très très courts. Donc, est-ce que c'est vraiment un dialogue? C'est plutôt une interaction entre un homme et une machine, avec une machine qui donne des ordres, et un homme qui valide ce qu'il fait à chaque tâche.
Oui. D'ailleurs, je crois que dans la réalité, ça se passe de façon un peu moins humaine que ce que nous avons fait là en préparant la commande émission des Voix du Crépuscule du 5 janvier 2017. Puisque souvent, on accélère le rythme de lecture de la machine, on bidouille un peu les mots-clés.
Voilà, c'est aussi pour ça que je parlais de signaux sonores, puisqu'à vitesse très rapide, ce que font tous les ouvriers, en fait, on l'utilise à vitesse très rapide, sinon c'est insupportable d'entendre une voix qui serait trop lente. Et à vitesse très rapide, on entend vraiment des signaux sonores pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. C'est même très difficile à reconnaître.
Donc d'une certaine façon, c'est déjà un peu de la vulgarisation.
Le réel a fait ce qu'il a pu.
Comment ?
Le réel a fait ce qu'il a pu.
Le réel s'en est très bien sorti. Donc, on va revenir à ce qui se passe concrètement dans les entrepôts. Mais avant, peut-être quelques définitions générales, quelques explications sur ce qu'est la logistique. Parce que, comme ces entrepôts, c'est loin de notre quotidien, c'est loin de ce qu'on fait d'habitude à Radio Campus Paris en général et aux Voix du Crépuscule en particulier. Donc nos auditeurs ne sont pas forcément familiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistent les activités de la logistique et où est-ce qu'elles se situent en Île-de-France ? Lucas Tranchant ?
On peut commencer en disant que la logistique, c'est un ensemble de choses qu'on peut définir de plusieurs manières. D'abord, c'est une fonction de l'économie. On pourrait dire que c'est ce qu'on résume habituellement sous le fait de transporter, distribuer, stocker les biens, les marchandises qui sont ensuite vendues dans l'économie ou d'autres types de marchandises encore. C'est aussi tout un ensemble, un secteur d'activité qui regroupe un certain nombre d'entreprises dont une partie sont dédiées uniquement à cette activité. Et puis enfin, c'est aussi un ensemble de métiers, simplement d'activités dans les entreprises, qu'elles soient spécialisées dans la logistique ou non, tout un ensemble de métiers qui consistent à déplacer, stocker, manutentionner des biens. Cet ensemble de métiers, il est de plus en plus concentré dans des entreprises dédiées à la logistique, notamment des prestataires externes, qui se situent en périphérie des grandes agglomérations pour beaucoup, et dans les points stratégiques au sein du réseau de transport français international.
Et alors, est-ce que c'est vrai ? Parce que, bon, dans la rhétorique d'une émission radio, on est toujours obligé de faire des choix, de simplifier, etc. Et donc, nous, notre rhétorique, c'est de dire on étudie la ville globale et on essaye de voir comment, par quelle boule à prendre. Et est-ce que c'est vrai de dire que c'est une spécificité des villes globales ? J'entends des villes-mondes, hein, comme Paris, New York, Londres, celles qui sont habituellement mises dans cette catégorie, que d'avoir un gros secteur logistique, que d'avoir beaucoup d'entrepôts, ou est-ce qu'on retrouve ça finalement dans toutes les zones industrielles, les zones d'activité des villes moyennes, ou est-ce qu'il y a vraiment une spécificité des villes globales ? Lucas Tranchant ?
Alors ça va dépendre de ce qu'on entend par là, puisque par exemple la logistique portuaire va plutôt, elle qui continue à exister, qui est très importante dans les flux mondiaux de marchandises, continue à être placée dans les ports et donc pas forcément à l'entrée des villes globales.
Bon, mais quand Paris sera vraiment grand, ce sera discutable. Puisque
on peut considérer le Havre comme une porte d'entrée de la métropole parisienne, bien sûr. Mais peut-être ce qui fait la spécificité des villes globales, ou en tout cas des grandes métropoles, c'est un bassin de consommation assez important qui demande tout un réseau d'approvisionnement des magasins, des commerces, etc. en biens, réseau qui se structure par tout un ensemble d'entrepôts logistiques à la périphérie de ces grandes villes, mais aussi dans les points d'entrée qui peuvent être les aéroports, les gares, etc. Donc il y a cette spécificité-là qu'on retrouve dans un grand nombre de villes de métropoles mondiales.
Et puis pour la logistique, une périphérie, ça peut être très très grand. Par exemple, pour la logistique, Orléans, c'est presque à la périphérie de Paris. Il y a une très grande zone logistique à Orléans qui dessert Paris pour tout un tas de services, de biens et de matières. Et donc ça peut aller très loin. C'est pas seulement l'approche périphérie, ça peut être très lointain. Et au-delà de ces périphéries des villes globales, il y a des entrepôts partout, à peu près dans toutes les villes de France, notamment les entrepôts de la grande distribution, par exemple, qui ont besoin de mailler vraiment tout le territoire et qui ne sont pas uniquement dans les grandes villes, même s'il y a quand même des concentrations assez fortes dans ces endroits-là.
Alors, vous disiez quelque chose tout à l'heure au sujet de l'internalisation, le fait que ces activités soient de plus en plus externalisées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui continuent de faire ça en interne. Mais quels sont les enjeux du fait que ces activités soient assumées par des spécialistes de la logistique qui ne font que ça. Pourquoi est-ce que l'économie a pris ce tournant? Qu'est-ce que ça change?
L'enjeu principal, je pense, c'est que ça crée la logistique en tant que telle. Le fait qu'il y ait des entreprises qui fassent que ça, ça crée un secteur d'activité qui auparavant existait mais qu'on voyait assez peu, qui n'était pas défini, qui n'avait pas une autonomie. Donc le fait que des entreprises automobiles, par exemple, se mettent à externaliser leurs fonctions logistiques, c'est-à-dire que des métiers qui auparavant pouvaient s'exercer dans l'usine vont s'exercer tout d'un coup à l'extérieur, dans un entrepôt, par exemple, qui va livrer des pièces à une usine. Tout ça, ça crée la logistique. De même pour la grande distribution, on a tendance à oublier un peu l'entrepôt quand il est inclus dans un grand groupe, alors que quand la logistique est gérée par un sous-traitant, tout d'un coup, ça émerge comme un secteur d'activité. Et par exemple, on le voit apparaître dans les chiffres, on le voit un petit peu mieux, on sait que c'est spécifiquement une activité logistique et que c'est plus une activité qui fait partie de la grande distribution. Ça en fait partie, mais tout d'un coup, ça devient un peu plus autonome. Donc on voit émerger cette fonction qu'auparavant, on oubliait un petit peu.
Alors, est-ce qu'il y a des moments de rupture qu'on peut identifier dans l'histoire récente? Le tournant libéral des années 80, le boom de l'économie numérique, je ne sais pas, ça correspond réellement à des ruptures?
Alors, déjà, il faut replacer ça dans le contexte de la mondialisation des flux de marchandises, avec les délocalisations croissantes des productions de biens matériels dans un certain nombre de pays où le coût de la main-d'œuvre est moins cher. Ça a allongé les chaînes de distribution et ça a donné plus d'importance au secteur logistique.
Vous parlez de tout ce qu'on appelle couramment délocalisation, dumping social pour ce qui est du droit du travail, le fait qu'on mette des usines en Thaïlande, en Chine, c'est ce que vous évoquez.
Voilà, ouais. Exactement, oui. Ouais. Après, si on parle des entrepôts qu'on voit dans nos grandes agglomérations, on va plus penser à la logistique terrestre qui a connu un réel tournant à la fin des années 80, en fait, avec la libéralisation ou la dérégulation du transport terrestre de marchandises par camion, donc c'est à la fin des années 80, donc qui a fortement massifié les flux terrestres au détriment des flux ferroviaires notamment. Et donc ça a donné une importance largement supérieure à ce système d'entrepôt et à un maillage du territoire beaucoup plus fin que le permettait probablement le système ferroviaire.
D'accord, donc là vous nous décrivez un changement pas tant en volume, mais en de nature de ces flux qui passent des rails aux routes. Mais est-ce que ce changement de nature s'accompagne aussi d'un changement en volume?
Il s'est bien évidemment accompagné du changement en volume du fait de l'augmentation croissante de la consommation de biens matériels.
Oui.
À quoi il faut ajouter, dans une période peut-être la plus récente, le développement du e-commerce, qui a aussi fait augmenter le flux de marchandises distribuées à travers des entrepôts, puisque en vidant en partie les commerces, notamment de proximité de cette fonction-là, ça a massifié les flux passant par les entrepôts et ensuite distribué aux particuliers.
On va moins dans les boutiques d'à côté et on va plus sur Internet, cliquer sur Amazon, Price Minister, Alibaba et compagnie. David Gaborio ?
Non, il y a vraiment ce tournant des années 80 qui est très important. Puis le tournant récent avec le e-commerce qui est déjà important mais qui va le devenir encore plus. Et si on veut remonter encore un petit peu en arrière, plus dans le passé de la logistique, on peut quand même évoquer l'émergence de la grande distribution dans les années 60 comme un acteur majeur des économies. Et la grande distribution, son principal atout, sa stratégie, c'est quand même de regrouper des achats. Et quand on regroupe des achats, on a besoin de les concentrer, de les stocker à un endroit. Et c'est aussi à partir de là qu'émerge l'entrepôt tel qu'on peut l'observer aujourd'hui. C'est-à-dire que pour regrouper les achats, la grande distribution a besoin de ces entrepôts. Elle stocke les produits ici et ensuite elle les diffuse dans les magasins. Et ça, c'est dès les années 60 que ça commence à émerger. Et il y a déjà cette formule-là de logistique qui ensuite va se développer, va toucher l'industrie, va toucher tout un tas d'autres domaines, jusqu'à aujourd'hui le e-commerce.
D'accord. Et en ce qui concerne l'implantation dans le territoire francilien, pour prendre l'exemple de Paris, parce qu'on est Radio Campus Paris et qu'on essaye de faire du local malgré tout, bien qu'on parle de la ville globale, je me suis renseigné un peu en ce qui concerne les zones d'activité, parce que, bon, généralement, ces entrepôts se trouvent dans des zones d'activité. Ce que j'ai pu trouver comme information, c'est que l'Île-de-France accueillerait 1200 parcs et zones d'activité économique. et que l'essentiel des zones d'activité était situé dans la zone dense de l'agglomération. Donc là, j'imagine que... Déjà, peut-être une question d'emplacement. Est-ce que c'est dans quelle zone de l'Île-de-France plutôt que ça se situe ? Et j'imagine que doit y avoir une tension entre la logique économique d'augmenter l'espace de ces entrepôts pour intensifier les flux, mais en même temps, les flux, ils servent des hommes, et les hommes, il faut les loger, et il faut aussi faire de l'urbanisme pour les habitants. Est-ce qu'il n'y a pas, dans le développement de ces zones d'activité économiques, des tensions avec le problème de l'habitat dans des villes denses. Donc, premier aspect de la question, peut-être, où est-ce qu'on trouve ces entrepôts ? Deuxième aspect, les problèmes de l'urbanisme.
Alors oui, c'est effectivement un premier aspect de la question, et il y a effectivement tout un ensemble d'entrepôts de taille, on va dire, moyenne, dans les zones un peu plus denses d'habitation. Mais ce qui fait la spécificité dans l'entrepôt moderne, comme le disait David Gamorio, c'est l'agrandissement des surfaces d'entreposage qui demande bien évidemment d'avoir un foncier beaucoup plus disponible et qui a tendance à faire reculer les entrepôts de plus en plus à la périphérie de la métropole parisienne. Donc les grandes zones logistiques qu'on constate aujourd'hui en Île-de-France, ça va être notamment en Seine-et-Marne, qui a un taux de croissance assez impressionnant de ces surfaces d'entreposage, que ça soit dans la zone autour de la ville nouvelle de Sénart, qui s'étend aussi vers la ville d'Évry, ou vers la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, qui a aussi d'importantes surfaces qui se créent en permanence. On pourrait aussi aller voir du côté de l'Oise, qui bénéficie aussi de la proximité avec l'aéroport de Roissy, aéroport qui fixe traditionnellement les entrepôts des entreprises de messagerie. Et puis même, on pourrait aller plus loin et prendre ce qu'on appelle le grand bassin parisien avec les départements limitrophes de l'Île-de-France. Donc il y a le Loiret pour Orléans, on peut en voir tout un ensemble d'autres autour qui fixent de plus en plus ces surfaces d'entreposage puisque le foncier y est disponible et un coût largement moindre que ce qui peut être pour la Seine-et-Marne, par exemple.
D'accord. Oui, David Gaborio, sur l'autre aspect de la question.
Et effectivement, oui, ça prend de plus en plus de place et c'est un vrai problème. La place des entrepôts logistiques, il y a plusieurs enquêtes qui montrent que dans ces dernières années, le développement des surfaces logistiques en surface, c'était autant que les surfaces de bureaux. C'est-à-dire que c'est des surfaces qui deviennent énormes et ça pose problème pour le logement, tu l'as dit, mais ça va pas rentrer aussi en concurrence avec le commerce ou avec des problèmes environnementaux également. Donc c'est un vrai souci, d'autant plus que l'activité logistique, elle est très labile, c'est le mot qu'on utilise, elle bouge beaucoup. Donc on a beaucoup de créations d'entrepôts, on a aussi des abandons d'entrepôts, donc on a une surface comme ça qui s'étend et des endroits où il y a un véritable étalement logistique qui n'est pas toujours très bien géré, il y a peu de gestion de ces espaces-là. Ils ont tendance à se développer beaucoup, notamment dans les lieux où il n'y a pas d'autre choix. Il faut savoir que l'activité logistique, ce n'est pas le premier choix pour les collectivités territoriales qui vont implanter une activité. C'est plutôt le choix quand il n'y a pas d'autre chose, notamment quand il n'y a pas d'industrie. Et quand il n'y a pas d'autre chose, on a besoin d'emploi, et pour accueillir de l'emploi, on accueille des entrepôts. Et on les accueille.
Pourquoi justement ce n'est pas le premier choix ? Pourquoi
Alors pour différentes raisons. Pour une raison qu'on va sûrement évoquer par la suite, c'est que les emplois logistiques sont des emplois assez peu qualifiés, assez peu valorisés. Oui. C'est principalement des emplois ouvriers. Et l'autre raison qui est très importante, c'est qu'un entrepôt, ça prend beaucoup de place sans concentrer beaucoup d'emplois.
C'est ça.
Par rapport à une industrie, ça occupe plus de place pour moins d'emplois. Mm-hmm. Et ça, c'est un souci pour les collectivités. Et tout simplement, c'est moins valorisé. Le problème de la logistique, c'est que par rapport à l'industrie, il y a un déficit de notoriété, un déficit d'image. Donc ça, c'est quand même important symboliquement. Et puis, ça apporte des camions, beaucoup de circulation. Ça nécessite des infrastructures qui coûtent cher et qui sont abîmées par les camions, notamment les infrastructures routières. Donc ce n'est pas une activité qui est très confortable pour les collectivités.
Et j'imagine aussi que ce n'est pas facile de mettre des habitations au milieu de ces espaces. Comme le disent les urbanistes, ça doit être des espaces assez monofonctionnels. Mettre des habitations au milieu d'une zone d'activité, ce n'est pas forcément très attrayant.
Non, ce n'est pas très attrayant. Et puis, il y a certains espaces dont la logistique a besoin. On l'a dit, tous les espaces qui sont à proximité des villes globales, notamment la logistique de la grande distribution. Et ces espaces-là, c'est aussi des espaces où le logement est assez cher. Il y a une problématique qui est intéressante avec le logement, c'est que, par exemple, la logistique s'implante, parfois, pas dans tous les cas, mais dans des espaces où il n'y a pas de logement disponible pour ce type de main-d'œuvre. C'est le cas notamment de l'est de la région parisienne, autour de Marne-la-Vallée, où le foncier est assez cher pour le logement. On implante des activités logistiques dans ces endroits-là parce qu'on en a besoin et on est prêt à offrir aux entrepôts des conditions favorables pour s'implanter. Par contre, les ouvriers qui travaillent dans ces entrepôts habitent parfois très loin et doivent se déplacer beaucoup pour venir dans ces zones-là.
On en reparlera d'ailleurs dans une troisième partie de l'émission sur cette vie autour des entrepôts, après bien sûr avoir parlé de la vie dans les entrepôts, et ce sera justement l'objet de la deuxième partie de l'émission. Mais pour l'instant, on va écouter un peu de musique et se reposer pour bien digérer tout ce qu'on a entendu.
Better, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never washing spiders down a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, will frequently check credit at moral, bank, hole in wall, favors for favors, fond but not in love, charity standing orders, on Sundays reading road supermarket, no killing moths or putting boiling water on the ants, car wash, also on Sundays, no longer afraid of the dark or midday shadows, nothing so ridiculously teenage and desperate, nothing so childish, at a better pace, slower and more calculated, no chance of escape, now self-employed, concerned, but powerless, an empowered and informed member of society, pragmatism not idealism, will not cry in public, less chance of illness, tires that grip in the wet, shot of baby strapped in backseat, a good memory, still cries at a good film, still kisses with saliva, no longer empty and frantic, like a cat, tied to a stick, that's driven into frozen winter shit, the ability to laugh at weakness, calm, fitter, healthier, and more productive, a pig in a cage, on antibiotics.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et nous écoutions à l'instant une chanson de Radiohead que Pascal va vous désannoncer parce que moi je suis bien incapable de le faire avec ma pièce culture
rock. Je suis tout à fait sûr du titre, je crois que c'est Filter mais j'ai un doute, c'est sur l'album OK Computer en tout cas qui était sorti en 1997 je crois. Donc voilà, c'est une synthèse vocale qui parle sur la chanson, donc synthèse vocale qui date un peu. À l'époque, c'était assez conceptuel de faire ça. Aujourd'hui, ça est peut-être un peu moins.
Ils étaient vraiment visionnaires, hein, ces artistes de Radiohead. Voilà, donc on est toujours sur les voies du crépuscule. On parle d'un sujet très sexy, les entrepôts de la logistique, vous l'avez compris. Mais c'est pour comprendre un peu ce qu'il y a derrière nos clics. Donc, c'est important. Et on est avec David Gaborio et Lucas Tranchant. Je vous ai présenté de façon un petit peu barbare à l'aide de la synthèse vocale de Google, mais il faut le faire de façon un peu plus humaine en parlant de vos enquêtes. Parce que si vous pouvez, si vous êtes là ce soir autour de nous, c'est parce que vous avez fait des enquêtes. Est-ce que vous pouvez nous présenter la façon dont vous avez approché ce monde des entrepôts ? David Gaborio ?
Alors moi j'ai fait une thèse sur le sujet et pour cette thèse en fait j'ai étudié plus spécifiquement les entrepôts de la grande distribution alimentaire, donc les entrepôts de Carrefour, Leclerc, Super U, toutes ces grandes entreprises, les entrepôts où on stocke les produits pour les livrer ensuite dans les supermarchés. Et une des caractéristiques de cette enquête c'est qu'elle s'appuie sur de l'observation participante, c'est-à-dire que j'ai travaillé moi-même comme intérimaire dans les entrepôts, dans 3 entrepôts pendant des périodes de 2 mois à chaque fois. Et à chaque fois, en travaillant, en étant avec un collectif de travail, j'en profite pour observer, noter tout ce que je vois. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est des entretiens avec les ouvriers. Et de tout ça, j'essaie d'en tirer une analyse du travail dans un entrepôt.
D'accord. Et vous, Lucas Tranchant, vous commencez votre thèse ou vous êtes en thèse et vous adoptez la même méthode ?
Je suis effectivement en thèse aussi. Et j'adopte en partie la même méthode, c'est-à-dire faire de l'observation participante en entrepôt à travers une entrée en tant qu'intérimaire dans ces entrepôts-là.
Donc vous avez tous les deux été préparateurs de commandes ou, voilà, c'est ça, ce dont on va parler. tout de suite.
Je me suis concentré moi sur les zones logistiques qui sont sur le territoire de la ville nouvelle de Sénart, avec l'idée d'étudier derrière ça les recompositions du groupe ouvrier par ces professions de la logistique qui connaissent une expansion importante en termes numériques depuis les années 80, en posant la question de est-ce que ce sont de nouveaux ouvriers, est-ce qu'ils font face à de nouvelles conditions de travail. Et j'essaye de mettre en regard ce que je vois sur le territoire sénartais avec ce qu'on peut avoir au niveau, ce qu'on peut constater au niveau statistique sur l'ensemble du territoire français.
D'accord. Alors vous entendez que nous ne sommes pas seuls sur le plateau. Un fond sonore a commencé à progresser, un petit peu comme ce grand inconscient des entrepôts qu'on ne voit jamais, qui sont des boîtes noires de notre vie quotidienne. Eh bien voilà, maintenant on va essayer d'y rentrer. Et pour y rentrer, on ne va pas faire ça tout seul, c'est un peu dangereux, on a peur de sortir de Paris. Et donc on va y aller avec un guide, qui est David Gaborio, qui a pris ses sons. Donc... Voilà, on est... dans un entrepôt, avec un préparateur de commandes qui doit être vous-même, David, qui est au travail.
Et une voix numérique avec qui il dialogue, entre guillemets. Et c'est cette voix numérique dont on parlait tout à l'heure, mais cette fois en vitesse normale, c'est-à-dire en vitesse accélérée, la vitesse à laquelle l'utilisent tous les ouvriers. Donc on entend d'un côté ma propre voix prononcer des mots-clés et la machine qui lui répond, ou plutôt l'inverse, c'est plutôt la machine qui donne des ordres. Et en fond sonore, on entend un bruit qui est important aussi, c'est le bruit du chariot. C'est le bruit aigu qu'on entend entre chaque mot. C'est le bruit d'un chariot électrique sur lequel on dépose la palette. Et forcément, il y a des moments de vide parce que la voix ne parle pas en permanence. On se déplace dans l'entrepôt.
Ça va vite.
On salue des collègues parfois.
Ça va vite, hein ?
Ouais, ça va assez vite. Et voilà, à chaque fois, okay. Je dis deux numéros, 5-3 ici. Ça, c'est un code des trompeurs. C'est pour que la machine soit sûre que je sois bien au bon endroit. Et quand je dis ça, la machine me dit 1, 2, 3. Elle m'ordonne de prendre 1, 2 ou 3 colis. Et quand je prends ces colis, en les prenant, je valide en prononçant le numéro. 1, 2 ou 3. Allez, 3, c'est l'endroit où je dois aller. Ok, je réponds.
Ok.
18, c'est l'emplacement.
1, 7.
C'est le mot-clé. Un colis.
1.
Et je valide. Et ainsi de suite. Donc c'est très répétitif, c'est toujours les mêmes mots, c'est toujours les mêmes tâches. Et à chaque fois, on valide en même temps qu'on fait les gestes. C'est-à-dire qu'on enregistre informatiquement, numériquement, chaque chose que l'on produit. Donc il y a aussi la commande vocale, c'est aussi une façon pour l'ouvrier de laisser une trace gestionnaire en fait. L'ouvrier produit une tâche gestionnaire, il fait de la traçabilité lui-même. Et c'est ça un des grands atouts de cet outil du point de vue des entreprises.
Oui, parce que immédiatement, dès qu'un produit est enlevé de, comment on appelle ça, de l'étalage sur lequel il se trouve,
du stockage,
il est noté dans une base de données informatique. C'est-à-dire que vous êtes dans la matrice d'une certaine façon.
Voilà.
Chacun de vos actes est enregistré par un ordinateur.
Voilà, c'est pas de la science-fiction.
C'est pas de la science-fiction.
Mais ce qu'il faut bien imaginer, c'est que la voix numérique, elle vit pas toute seule. C'est un logiciel qui est derrière cette voix numérique, et c'est ça qui est vraiment important. La voix numérique, c'est que la surface du logiciel. Et ce logiciel, effectivement, il enregistre chaque prise de colis. Et quand un colis est pris, il est enregistré comme manquant, c'est-à-dire qu'il est automatiquement commandé au fournisseur. Et c'est vraiment ce côté-là de la traçabilité qui est très important pour les entreprises. Sachant qu'un point important, c'est que quand on trace un colis, en même temps, on trace le travail aussi. C'est-à-dire que la machine, elle enregistre pas seulement le fait que le colis a disparu du stockage, elle enregistre le fait qu'un ouvrier l'a pris, à tel moment, à tel endroit, et à tel rythme. Donc c'est aussi des mesures de la productivité, c'est du contrôle du travail.
Productivité qui, j'imagine... a dû être augmenté par cette introduction de la commande vocale. Ça doit être un de ses objectifs, non ?
Alors, ce n'était pas présenté comme ça au
départ.
Mais en fait, dans tous les entrepôts, il y a une augmentation de 10 à 15% de la productivité. Donc, c'est difficile d'imaginer que les concepteurs ne l'aient pas prévu. Ce qui était présenté au départ, c'était vraiment la qualité, une amélioration de la qualité. Parce qu'en fait, dans la logistique, ça coûte très cher de faire une erreur, d'oublier un colis sur une palette. Il faut ensuite le livrer avec une autre livraison. Donc ça, c'est très cher. Donc d'être bien sûr que tous les colis sont à l'endroit où on veut qu'ils soient, en fait, ça, c'est un point très important. Mais l'autre point, bien sûr, très important, c'est la productivité. Ça va beaucoup plus vite. On travaille beaucoup plus vite sur commande vocale. C'est exactement la même tâche que celle qu'on faisait auparavant avec un listing papier, c'est très très proche. Mais on fait la tâche de la même manière et pourtant on la fait 15% plus vite.
Vous avez expérimenté les deux méthodes. Vous avez travaillé aussi dans l'ancien modèle avec un listing papier, comme vous dites, ou...
Un tout petit peu.
Un tout petit peu, oui.
Tout début, et pas au début de mon enquête, mais au début de ma rencontre avec le monde du travail à 18 ans, quand j'ai voulu faire de l'intérim pour gagner un peu d'argent l'été.
Ouais.
C'était vraiment le moment de transition. C'était les premières apparitions de la commande vocale, donc j'ai fait un tout petit peu de travail sous listing, mais vraiment un tout petit peu, c'était vraiment au tout début de l'activité.
Et alors, est-ce que vous avez eu pour la première fois entre vos mains, l'expression mal choisie, mais avec vous un casque et travaillé sous commande vocale, est-ce que vous avez le même discours que celui qu'on peut entendre sur les clips de publicité présentant les techniques vocales sur Internet, des discours plutôt enchantés, où c'est vraiment très pratique, il n'y a pas d'erreur, on a les mains libres, vraiment c'est bien?
Alors oui, le grand discours, c'était de dire que ça libère la main et les yeux de l'ouvrier.
Ça libère la main, c'est ça, dans notre histoire la plus paléolithique.
Voilà, s'il y a un peu cette idée-là à travers tout ça, ça libère la main en fait, parce que ça permet de ne plus utiliser un crayon, et ça libère les yeux parce qu'on n'a plus à regarder sur une fiche les colis qu'on doit prendre. Mais en fait, ce qui est présenté dans ce cas-là précis comme une libération, si on élargit un petit peu à l'ensemble de l'activité de travail, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt une perte d'autonomie, très clairement. D'avoir cette machine qui dicte, cette machine qui contrôle, c'est une perte d'autonomie. Principalement parce qu'en fait, ça impose un scénario. En fait, auparavant, quand on avait le listing papier, on pouvait regarder ce qu'on avait à faire, choisir l'ordre dans lequel on faisait les tâches. Avec la commande vocale, on travaille vraiment sous un scénario, c'est-à-dire qu'on fait les tâches point par point, les unes après les autres, et contrôlées par la machine.
Mmh. Oui. Lucas Tranchant, vous avez aussi cette expérience de préparateur de commandes, donc avec commande vocale. Non, pas avec commande vocale.
Alors, non, moi j'ai pas travaillé avec de la commande vocale, mais c'est pour rebondir sur ce que disait David, qui est très important, c'est que même quand il n'y a pas de commande vocale, il y a une interface qui est reliée au système informatique qu'il y a derrière. Et donc ça peut prendre la forme d'une petite scanner, d'un terminal comme pour scanner ses produits au supermarché. Ça peut prendre la forme d'un petit terminal informatique sur le chariot ou avec un clavier où il s'agit de rentrer le code des produits. En tout cas, le système derrière est le même, c'est-à-dire un scénario imposé avec un trajet qui est défini dans les allées de l'entrepôt qui vise à minimiser la durée entre la prise des produits, etc. Et cela conduit, évidemment, avec un identifiant unique associé à chaque ouvrier, cela conduit à une individualisation de la mesure de la productivité, puisqu'il y a dans énormément d'entrepôts, maintenant, une prime de productivité individuelle qui est distribuée aux ouvriers. Et moi, je l'ai rencontré...
Qui les incite à aller vite, j'imagine.
Bien sûr.
J'imagine que mettre en accéléré, par exemple, ça contribue aussi à accélérer le travail, aller plus vite avec le transbord, avec le chariot. C'est ça.
C'est ça, exactement. Mmh. À pas utiliser les postures qui sont pourtant constamment rappelées par les chefs d'équipe pour éviter de se faire mal au dos, mais qui évidemment ralentissent la prise des produits. Et concrètement, ça amène à une sorte de compétition entre les ouvriers, qui n'est pas forcément une compétition agonistique, ou ça peut être aussi simplement une sorte de jeu aussi où on compare à la fin de la journée le nombre de colis qu'on a fait, ou il y a une forme d'objectif individuel qu'on se fixe au fur et à mesure des jours, mais qui conduit à une intensification concrète du travail jour après jour.
D'accord. Cette individualisation, alors juste peut-être sur la prime, je voulais citer un chiffre que vous donnez dans un de vos articles, David Gaborio, paru dans la Nouvelle Revue du Travail, et qu'on peut consulter gratuitement en ligne. Donc j'invite les auditeurs à s'y référer. Vous dites que la prime de productivité peut aller jusqu'à 400 euros par mois, et donc augmenter le salaire de l'employé jusqu'à 1700 euros. Ce qui veut dire c'est que finalement, c'est pas négligeable d'un point de vue économique. Ça les fait changer presque de catégorie sociale, selon si on s'en tient au salaire de base ou si on inclut la prime de productivité. Et vous dites aussi, d'ailleurs, que c'est assez amusant cette anecdote, qu'on les appelle les fusées, ceux qui, dans l'entrepôt, utilisent le plus les méthodes d'accélération, parce qu'ils se déplacent extrêmement vite, ils font tout très vite.
Alors effectivement, il peut y avoir une forme de stigmatisation de ceux qui vont vraiment très très vite et qui cherchent vraiment à atteindre la prime maximum. Mais finalement, tout le monde cherche un peu à atteindre cette prime-là. C'est une part importante du salaire. Alors 400, c'est vraiment, vraiment le maximum. On tourne souvent autour de 2 à 300 au maximum. Et puis, très souvent, c'est moins. Mais ça peut être autour de, parfois, jusqu'à 30% du salaire des ouvriers, ce qui est beaucoup. Et ce qui veut dire, et c'est un point important, c'est que la commande vocale, c'est un peu choquant. On a l'impression que c'est un espèce de monstre panoptique qui observe, qui contrôle. Mais dans ce cas-là précis, le rythme de travail, il n'est pas dicté par la voix. Si on met la voix rapide, par exemple, alors c'est peut-être pour aller un petit peu plus vite, mais c'est aussi parce que c'est réellement insupportable d'entendre une voix très lentement quand on travaille avec une voix numérique. Par exemple, quand on se penche pour prendre un colis, on ne peut pas attendre dans une posture penchée que la voix finisse par nous valider et nous dire combien de produits il faut. Donc c'est pas ça forcément qui fait aller vite. Ce qui fait aller vite, le plus vite, c'est le contrôle des quotas, puisqu'il y a un quota minimum aussi qu'on doit atteindre, et si on n'atteint pas ce quota, notamment quand on est en intérim, il y a une menace de fin de mission, c'est-à-dire de licenciement par intérim. Et surtout, on cherche à obtenir une prime de productivité quand elle existe, et c'est ça vraiment qui fait aller vite dans l'entrepôt.
D'accord. Et oui, alors vous disiez que le traçage était complet, que l'introduction de la commande vocale ou de techniques informatiques permettait de limiter les choix qu'a à faire le travailleur dans la façon dont il s'organise. Il va prendre d'abord tel produit plutôt que tel autre. Là, c'est pas possible. C'est scénarisé, il doit aller là, pas à tel endroit. Et cette individualisation aussi de la mesure de la performance conduit à une diminution des discussions un peu informelles qu'on peut avoir pendant le travail. Est-ce que vous constatez que la sociabilité de l'usine, enfin de l'entrepôt, est affectée par ce système, ou où est-ce qu'elle s'est adaptée, elle s'est transformée pour résister, parce que travailler seul toute la journée et aller le plus vite possible, c'est pas très réjouissant.
Alors c'est toujours difficile à observer, parce qu'en fait on sait pas vraiment exactement comment c'était avant, et quand on interroge les gens, il y a un effet de transformation du passé qui est pas évident à observer. Ce dont on peut être sûr, c'est que les métiers dans les entrepôts, ça a toujours été des métiers peu qualifiés. Les métiers de la préparation de commandes, de prendre les colis, de les poser sur les palettes, c'est des métiers qui sont peu qualifiés, mais quand même, il y avait certaines formes de savoir-faire qui pouvaient se développer dans un système avec des fiches, des listes papier, où il y avait une certaine autonomie. Comme il y avait des marges de manœuvre, dans les marges de manœuvre, il y a des savoir-faire qui se développent. Avec la commande vocale, ces savoir-faire-là, ils sont restreints. Donc l'activité, elle se restreint de plus en plus au fait de prendre un colis, de le poser à un rythme élevé sous commande vocale. Donc il y a bien une restriction de la tâche qui est importante. Ensuite, au niveau de la sociabilité, alors c'est encore plus difficile à observer. La première chose qui choque un petit peu, c'est qu'effectivement, la commande vocale, elle empêche en partie de discuter. Alors on l'entendait un tout petit peu tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps de rebondir dessus. Quand je disais bonjour à un collègue que je croisais, en même temps, la machine me dit « répétez, ce mot n'est pas compris ». Parce qu'en fait, le mot « bonjour » n'est
pas... Tout mot doit lui être destiné.
Voilà, c'est pas un mot-clé qui est reconnu par la machine.
Ça sert à rien, bonjour.
ça sert à rien du point de vue de la machine, c'est sûr. Après, ça c'est un peu choquant, mais en fait, on peut aussi enlever le casque et discuter un moment. Sauf que enlever le casque, ça implique de sortir de son activité pour pouvoir discuter, et non plus de discuter pendant le travail, ce qui restreint un petit peu la chose. Et ensuite, le deuxième point important, c'est que si ça individualise le travail, c'est aussi parce qu'on n'a plus vraiment besoin de travailler avec les autres. Concrètement, quand on était sur des supports papier, il y avait sur plusieurs points, il fallait pouvoir communiquer avec d'autres postes de travail, notamment avec les caristes qui rangent les palettes dans le stockage. Il y avait comme ça des moments de discussion qui étaient nécessaires, qui ne le sont plus. Et effectivement, aujourd'hui, même si on peut discuter, on peut avoir une sociabilité très riche en entrepôt, hein, c'est un milieu ouvrier où il y a aussi beaucoup de blagues, où il y a beaucoup de discussions, mais on peut aussi venir le matin, mettre son casque sur les oreilles, allumer sa machine, se faire reconnaître par la machine et faire sa journée de travail sans discuter avec personne, repartir, déposer le casque et basta. Et ça, c'est possible, en fait. Et auparavant, ça l'était beaucoup moins.
Alors qu'effectivement, voilà, le système qui prévalait avant, obligé au contraire à une certaine sociabilité, à des échanges qui faisaient partie du travail.
C'est pas ce que font la majorité des gens, mais c'est possible et on voit des gens qui travaillent comme ça.
D'accord. C'est intéressant. Lucas Tranchant.
J'ajouterais aussi que malgré la machinisation croissante du travail en entrepôt, avec notamment même quand c'est pas la commande vocale, c'est ces petits terminaux qui donnent un listing de produits au fur et à mesure. Donc à chaque fois, il faut rentrer le code et ça donne le produit suivant, etc. Il y a quand même des marges d'autonomie qui se créent quand, par exemple, un ouvrier décide d'apprendre les 15 prochains produits par cœur et d'aller les chercher un peu dans l'ordre qu'il veut et ensuite de rentrer les codes de validation des produits qu'il connaît aussi par cœur à force de les avoir fait, et donc il peut aussi comme ça reconquérir un petit peu d'autonomie sur la machine. Et par ailleurs, il y a aussi tout un ensemble de temps morts dans le travail en entrepôt qui sont certes assez rares puisque le travail est vraiment très intense, mais ça peut arriver qu'il y ait des petits temps morts. Et comme c'est un espace de travail où en fait on circule énormément puisqu'on est sur un chariot, on doit passer d'aller en aller, on se croise en permanence. Eh bien, il y a quand même très souvent des moments de sociabilité qui se créent, qui sont très courts, très ponctuels, de quelques secondes, où on peut raconter un petit bout de sa journée de la veille, discuter sur le match du soir, etc.
En accéléré aussi.
En accéléré aussi, mais qui crée quand même une sociabilité concrète, très diffuse, mais concrète quand même dans l'entrepôt. Et j'ajouterais peut-être aussi que s'il y a une perte d'autonomie de la part des ouvriers dans les entrepôts, c'est probablement aussi parce qu'il y a une perte de savoir-faire qui était liée à la stabilité du personnel dans les entrepôts. Du fait du turnover de plus en plus important de la main-d'œuvre dans ces entreprises-là, notamment par rapport à la place croissante de l'intérim dans la main-d'œuvre, eh ben, il y a une perte de savoir-faire de ces gens qui restent 2 semaines, 1 mois dans l'entrepôt et qui n'ont pas forcément le temps d'apprendre, par exemple, les codes, les allées, les produits, etc., qui permettent de reconquérir les marges d'autonomie sur la machine.
Et la question, c'est, est-ce que ça n'est pas ce que souhaitent ceux qui organisent le travail, sans faire du complotisme, mais est-ce que ça... On a l'impression, effectivement, que la tendance est à réduire au maximum les savoir-faire. Vous parlez, David Gaborio, de l'art de faire une belle palette, de savoir faire une belle palette, de savoir s'organiser un peu soi-même. La conception technique de ces logiciels et de ce travail a l'air de favoriser le recours à des intérimaires non formés, a l'air de chercher cela.
Ça, c'est pas évident à voir, parce qu'en fait... Quand on parle de ceux qui organisent le travail, ce n'est pas un tout uni. Il y a différentes personnes qui organisent le travail. Ceux qui l'organisent du point de vue de l'entrepôt, pour certains, peut-être pas tous, mais eux, ils aimeraient bien peut-être que les savoir-faire logistiques se maintiennent. Mais l'entrepôt, il n'est pas tout seul. L'entrepôt, il travaille, dans le cas que j'ai observé, moi, par exemple, avec une grande enseigne, avec Carrefour, Leclerc, Super U, avec le pôle commercial de l'enseigne. Et le pôle commercial de l'enseigne, lui, il veut plutôt imposer certaines normes de fonctionnement à l'entrepôt. Par exemple, l'exemple de la belle palette, c'est-à-dire les ouvriers construisaient des belles palettes bien équilibrées avec des colis qui se maintiennent, et c'est vraiment très dur en fait, c'est une espèce de Tetris pour que les colis tiennent en équilibre. Ça, c'est super du point de vue logistique, mais le supermarché, il n'a pas forcément intérêt en priorité à avoir ces belles palettes. Une belle palette, c'est parce qu'elle circule, quand elle circule dans le camion, elle reste stable, quand on l'ouvre, elle ne s'écroule pas, donc ça, c'est vraiment logistique. Mais le supermarché, lui, il préfère que les produits qui soient sur la palette, ils soient dans le même ordre que ses rayons. Et quand la palette va être ouverte en rayon, on va pouvoir disposer automatiquement les produits dans l'ordre dans lequel ils sont rangés sur la palette. Donc l'ordre dans lequel ils sont rangés sur la palette, c'est super pour le supermarché. Par contre, de mettre les produits de cette façon-là, pour un préparateur de commandes, c'est un enfer. Et ça l'empêche de faire son boulot tel que lui voudrait le faire. Donc c'est pas l'encadrement, c'est pas un tout uni. Et la chaîne logistique, le lien entre le supermarché et l'entrepôt, c'est pas de la coordination, de la coopération, de la discussion en très bonne entente, c'est aussi de la concurrence.
Merci David Gaborio pour cette précision. On fait une deuxième pause musicale et on revient tout de suite après. Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. We'll be right back. Vous êtes bien sur le 93.9 FM, les Voix du Crépuscule vous parlent. Nous sommes avec David Gaborio et Lucas Tranchant pour une émission sur les portes de la ville des flux, les entrepôts et les hommes qui les font et qui y travaillent. Et vous entendiez à l'instant du groupe Abstract Nights, la piste Sky, Kelp Remix, que je suis bien incapable de vous présenter de façon plus profonde. Donc on va retourner à nos entrepôts, ça on maîtrise un peu mieux. Et pas pour continuer de vous décrire comment se passe le travail, je pense qu'il y aurait des milliers de choses à dire encore. Pour ça, vous allez lire les articles de Lucas Tranchant et de David Gaborio en ligne, parce que c'est ça qui est beau dans la recherche publique, c'est que, enfin, c'est pas toujours si vrai, mais les résultats sont assez facilement publiables pour ceux qui ont la curiosité d'en lire les produits. Donc vous pouvez lire l'article de David Gaborio sur la Nouvelle Revue du Travail, gratuitement, peut-être le vôtre aussi dans la revue Sociologie, Lucas Tranchant.
Qui n'est pas sur ce thème-là.
Mais... Oui, c'est pas sur ce thème-là. Bon, ben, on attendra vos prochains articles sur le thème. Donc, on va parler de la vie hors travail, de la sociabilité de ces travailleurs. Déjà, une première question, est-ce qu'il faut les appeler ouvriers ? Est-ce qu'il faut les appeler employés ?
Alors très clairement, on peut les appeler ouvriers, puisque dans les conventions collectives qui définissent les grilles classificatoires des postes dans ces entrepôts, ils sont considérés comme ouvriers. Ils sont aussi considérés comme ouvriers par la statistique publique. L'INSEE, par sa nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles, les classe parmi les ouvriers, qu'ils soient préparateurs de commandes ou caristes. Et puis, très concrètement, leur travail correspond encore en beaucoup de points à ce qu'on imagine être un travail d'ouvrier.
Avec la répétition.
Avec beaucoup de monotonie dans le travail, une répétition et une intensité physique très importante.
Donc en fait, il n'y a pas de débat. Je pensais que peut-être les entreprises continuaient à les appeler employés. Non, ce sont des ouvriers, d'accord.
Non, on a envie de les appeler autrement parce qu'en fait, ils produisent pas des biens et des matières. Et on a l'habitude en France, de manière commune, de classer comme ouvriers les gens qui produisent des automobiles, des choses comme ça. Et eux, il faudrait considérer peut-être qu'ils produisent du flux. Et que le flux, c'est une production qui est devenue essentielle aujourd'hui dans nos économies.
Mais eux n'aiment pas l'appellation ouvrier, non ?
Eux se définissent assez peu comme des ouvriers. Et assez peu comme des professionnels en général, la préparation de commandes en particulier. On a du mal à dire « je suis préparateur de commandes », on fait de la prep comme on fait de la caisse en supermarché par exemple. Et c'est des métiers où la déqualification, la faible visibilité aussi, empêchent de se définir comme un professionnel et de revendiquer un savoir-faire, ouais. Un métier.
Comme on pouvait être fier d'être ouvrier, ou comme on peut être fier d'être ouvrier, avoir une culture ouvrière, associer une culture syndicale. Enfin, il n'y a pas ce phénomène pour ce qui est des ouvriers de la logistique.
Il y a assez peu ça. Par contre, il y a quelque chose qui a toujours existé dans le monde ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours eu que la fierté, même si c'est important dans le monde ouvrier. Il y a aussi l'exposition quotidienne à la contrainte, aux gestes répétitifs, à la pénibilité physique. Et même s'il y a eu des formes de fierté, et il y en a encore d'être ouvrier, il y a aussi beaucoup de formes qui sont difficiles à accepter, difficiles à revendiquer, difficiles à vivre au quotidien. Et ça, les ouvriers en sont conscients. Qu'on en soit fier ou pas de son métier, on en subit aussi les contraintes. Et ça, c'est important pour tous et toutes.
D'ailleurs, qui sont-ils ? Lucas Tranchant, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais ajouter que... Sur cette question-là, c'est intéressant de voir aussi que la faible identification peut-être au groupe ouvrier, elle correspond plus largement à la baisse d'identification au groupe ouvrier de la part des ouvriers même de l'industrie. Donc c'est un mouvement assez général. Et par contre, ça a la vertu de mettre en avant le fait qu'il y a toujours eu, au sein du groupe ouvrier, tout un ensemble de métiers qu'on ne rattacherait pas naturellement à ce groupe-là, ce que certains sociologues ont appelé les marges du groupe ouvrier. Et qui sont marges qui sont en train de croître fortement, puisqu'il y a tout un ensemble de métiers qui ne sont pas forcément des métiers de la logistique, mais qui sont ceux de jardinier, ceux de la restauration, un ensemble de métiers qui sont en forte expansion depuis une trentaine d'années, et qui sont pourtant bien des emplois ouvriers. Donc les emplois dans les entrepôts, préparateurs de commandes, caristes, sont parmi ces emplois aux marges du groupe ouvrier, mais qui en sont néanmoins bien au cœur.
D'accord. Et une dernière question, parce que malheureusement, on va être obligé de décourter cette partie sur les sociabilités ouvrières. C'est quelque chose qui nous intéresse au Voix du Crépuscule, les diasporas qui forment la ville cosmopolite. Et vous disiez, quand on préparait l'émission au téléphone, Lucas Tranchant, qu'une partie importante de ces travailleurs des entrepôts venaient de l'étranger, venaient de ces diasporas fraîchement arrivées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors oui, moi dans les entrepôts que j'ai étudiés à Sénart, il y a effectivement une part importante de la main-d'œuvre dans les entrepôts qui est immigrée, puisque la zone de Melun-Sénart correspond à une porte d'entrée migratoire de l'Île-de-France. Et comme ce sont des métiers accessibles avec peu de qualifications, voire aucune qualification, il suffit bien souvent de s'inscrire en intérim et parfois d'avoir repassé le CACES, le permis pour de conduire des chars élévateurs. Donc c'est un secteur qui permet facilement de trouver du travail encore dans ces espaces-là. Et pardon, j'en perds mon casque. Et oui, on trouve des entrepôts où il y a des diasporas, on pourrait dire, qui se créent au sein de la main-d'œuvre avec des filières de recrutement qui sont liées, par exemple, ça peut être à l'origine du chef d'équipe qui est lui-même d'une certaine origine et qui va avoir tendance à recruter des ouvriers du même pays.
Donc on retrouve des logiques qu'on avait déjà vues dans cette émission, par exemple avec la spécialisation des ouvriers maliens dans le bâtiment ou bien des ouvriers sri-lankais dans la restauration. Effectivement, c'est intéressant comme question. On sera obligé de vous lire pour en savoir plus parce que malheureusement, il faut s'en tenir là. Mais heureusement, Pascal va prendre la relève et nous parler de l'actualité des combats des peuples autochtones. Les voies du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Alors plus précisément, Pascal va revenir sur la lutte contre le Dakota Access Pipeline. Parce qu'il y a du nouveau depuis la dernière émission, Pascal.
Oui, du nouveau et pas des moindres. Les Sioux de Standing Rock ont vaincu l'industrie capitaliste. Tranché comme avec une faux le serpent noir qui devait onduler son pétrole sous la rivière Missouri, ridiculiser les lobbies, la police d'État ou police privée. Le corps des ingénieurs de l'armée a finalement annoncé le 4 décembre dernier qu'il n'accorderait pas le permis pour faire passer le pipeline sous le lac Oahe, une retenue d'eau artificielle du Missouri qui sert de réserve en eau potable aux Sioux de Standing Rock et à d'autres populations.
Alors je rappelle pour nos auditeurs que le Dakota Access Pipeline, c'est cet oléoduc qui devait transporter du gaz de schiste sur presque 2000 km.
Depuis le Dakota du Nord jusque dans l'Illinois. Et les autochtones et des défenseurs de l'environnement s'y opposaient fortement pour protéger l'eau et plusieurs sites sacrés le long du tracé. En raison du risque élevé de fuite, la non-pollution de l'eau du lac Oahe n'est pas garantie. Il va donc falloir étudier un nouveau tracé. C'est ce qu'a dit le corps des ingénieurs de l'armée. Et voilà, vaincu le colonialisme des sous-sols après 8 mois de résistance. Eh bien non, en fait non.
Mais pourquoi non ? C'est bien ce que réclamaient ceux qui résistaient, que le pipeline n'ait pas le permis pour passer sous le Missouri. Ils ont gagné alors ?
Eh bien, pas vraiment. Pour plusieurs raisons. D'abord, tu n'es pas sans le savoir, le 21 janvier prochain, l'administration fédérale des États-Unis va changer. Et le nouveau président, un certain Donald J. Trump, non seulement est climato-sceptique, donc pas très enclin à freiner le développement des énergies fossiles.
Tu crois ?
C'est un peu un euphémisme, je pense qu'il parle même plutôt de l'augmenter. Mais il se trouve qu'en plus, il a lui-même investi dans le Dakota Access Pipeline. Le corps des ingénieurs de l'armée a parlé d'étudier un nouveau tracé et de faire une étude d'impact environnemental complète, ce qui se fera dans les prochains mois, et ce qui en plus, l'étude d'impact est du ressort de l'Agence de protection de l'environnement que Donald Trump propose de supprimer. Et ce n'est pas tout, parce que Donald Trump menace également de privatiser les réserves indiennes où il y a du gaz ou du pétrole. Alors là, il ne s'agit pas directement d'extraire du gaz ou du pétrole, il s'agit d'en faire passer. Mais bon, on comprend qu'avec Trump, le combat n'est pas fini. D'autant que Energy Transfer Partner, l'entreprise qui est chargée de la construction, a annoncé qu'elle mènerait le pipeline jusqu'au bout coûte que coûte et qu'elle comptait passer outre la décision de l'armée. Et n'oublions pas, pour finir, que plusieurs centaines de protecteurs de l'eau attendent leur jugement, dont une Red Fawn Fallis qui risque 20 ans de prison, et que certains ont perdu dans les attaques de la police un bras ou un œil. Je ne sais pas s'il me reste 30 secondes.
Malheureusement, on va devoir rendre l'antenne. Je sais dire quelques mots sur Léonard Peltier, mais je renvoie nos auditeurs à notre blog qui trouveront une interview et un petit article sur Léonard Peltier,
voilà,
dont on a déjà parlé.
Dernière chance de libération dans 2 semaines avec Obama, Obama part.
Oui, absolument, c'est important. Mais il faut rendre l'antenne, malheureusement, et remercier avant cela nos auditeurs, bien sûr, notre réalisateur Henri, toi-même, Pascal, pour ta chronique toujours aussi régulière, et surtout nos deux invités,
merci.
David Gaborio et Lucas Tranchant. Merci à tous et on se retrouve dans un mois, le jeudi 2 février ou quelque chose comme ça. À très bientôt.